Guernica, quand l'histoire devient symbole, voici la première partie d'une conférence de Jean-Claude Laronde, historien et président du Musée basque et de l'histoire de Bayonne. Conférence enregistrée le 14 décembre 2016 au Musée basque de Bayonne. Guernica, quand l'histoire devient symbole, voici la première partie de la conférence de Jean-Claude Laronde.
Donc je vais vous parler, oui, de Guernica, quand l'histoire devient symbole. Alors, Guernica, la simple évocation de ce nom, d'une bourgade de la province de Biscaye, entraîne une foule d'images, images mêlées de recueillement et de douleur, d'émotion et de malheur, de dignité et d'espoir aussi. Guernica, c'est tout à la fois le berceau de la démocratie basque, le lieu sacré par excellence des libertés et des traditions basques. Mais c'est aussi le lieu où est planté l'arbre qui incarne ces mêmes libertés et traditions, le fameux chêne chanté par un barde du XIXe siècle, José María Iparraguirre. C'est encore l'endroit, évidemment, d'un terrible bombardement sur une population civile sans défense, lors de la guerre civile d'Espagne, en 1937, événement qui eut une répercussion considérable et qui fut immortalisé par un peintre de génie, Pablo Picasso. C'est enfin le siège, aujourd'hui, de la démocratie basque contemporaine, l'actuel statut d'autonomie des provinces basques d'Álava, de Biscaye et du Guipuscoa s'appelant « statut de Guernica », et les actuels présidents, ou lendakari, du gouvernement autonome basque, étant dans cette ville investis de leurs fonctions, comme le fut José Antonio Aguirre en 1936. C'est toutes ces images de Guernica qu'il me faut maintenant successivement restituer. Guernica, c'est tout d'abord le lieu des assemblées de Biscaye. Les assemblées, on disait Juntas Generales, de la province de Biscaye, se réunissaient dans la commune, on disait Ante Iglesia, limitrophe de Lumo. Lumo fut d'ailleurs annexé par Guernica en 1882. Guernica fut fondée en 1366 par le comte Don Telio, seigneur de Biscaye, et on pense que c'est depuis le XVe siècle que les assemblées se déroulent à Guernica. Ce système politique traditionnel fut largement aboli en 1839, à la fin de la première guerre carliste, et complètement aboli en 1876, à la fin de la seconde guerre carliste. La base du système politique traditionnel était le fuero, le fort, on peut traduire le fort en français. Mais une différence doit être faite immédiatement avec le concept de privilège. Les privilèges sont des franchises qui sont octroyées par le pouvoir central à des provinces ou à des communautés. Mais dans le cas du fuero, il s'agit d'us et de coutume, donc d'un droit coutumier qui, à un moment donné, pour des questions de commodité, va devenir écrit. Ces fueros de Biscaye existaient avant le XIIIe siècle. Et ils vont faire l'objet de deux rédactions successives. Il y aura le Fuero Viejo, l'ancien fort, qui date de 1452 et qui est surtout un droit civil, et le Fuero Nuevo, le nouveau fort, qui date de 1526 et qui est plutôt un droit public. Le Fuero de Biscaye avait pour objectif de faire bénéficier les habitants de la province d'un bon gouvernement et d'une bonne justice. Et tout d'abord, le fuero s'efforce de limiter les pouvoirs du seigneur sur la province. Le seigneur doit prêter serment de respecter les fueros et il doit les confirmer. En 1379, Juan Ier, qui était seigneur de Biscaye depuis déjà 8 ans, hérite de la couronne de Castille. Ainsi, la seigneurie de Biscaye et la couronne de Castille ont depuis cette date, de 1379, donc, le même titulaire. Mais, malgré ce fait, la situation de la Biscaye ne change pas. Elle conserve ses fueros. Son système particulier politique n'est pas remis en cause par cette pure et simple union en la personne du souverain. Le roi de Castille doit jurer de respecter les fueros de Biscaye pour être reconnu comme seigneur de Biscaye. Cette obligation montre la subordination du pouvoir au droit. Le premier serment de respecter les fueros dont on a connaissance date de 1333. Si le roi de Castille et seigneur de Biscaye, donc, ne jure pas de respecter les fueros, il y aura application de la formule « se obedece, pero no se cumple », c'est-à-dire « on obéit, mais on n'exécute pas ». Alors, évidemment, autrement dit, la loi sera, si vous voulez, sera obéie, respectée, mais ne sera pas exécutée ou appliquée. Et cette formule trouvait à s'appliquer également lorsque les ordres du Seigneur étaient jugés illégaux par les représentants de la province. C'est ce qu'on appelle, donc c'était assez difficile à comprendre peut-être pour nous, mais actuellement, ou pour des esprits très... Mais c'est le passé foral, c'est la formule constitutionnelle du refus d'appliquer une mesure contraire à la loi du pays. Elle garantit le respect de ce qui est stipulé dans le fuero. Et évidemment, le but, c'est de mettre un frein aux excès ou aux erreurs du souverain, sans toutefois avoir recours à la violence. Les ordres jugés illégaux du seigneur devaient être obéis, ce qui sauvegarde le système et le symbole hiérarchique, mais non exécutés, ce qui sauvegarde les droits du peuple. Et on peut remarquer que le dernier mot appartient au peuple. Les pouvoirs du seigneur sont ainsi définis et restreints. Il faut dire que les rois de Castille ne résidaient pas en Biscaye. Ils y envoyaient un représentant qui était appelé le corregidor. L'histoire du système constitutionnel biscayen entre 1526, donc c'est la date de la rédaction du fuero, et 1839, date de la fin de la première... 1839, c'est la date de la première, de la fin de la première guerre carliste, reflète la structure immuable de l'ancien régime caractérisée par la permanence du système foral. Jusqu'en 1839, on peut dire que la Biscaye se gouverne elle-même, qu'elle ne remplit pas, par exemple, d'obligations, ses habitants ne remplissent pas d'obligations militaires envers l'Espagne, et elle fut une zone de libre-échange. Ça aussi, c'est important. La douane espagnole n'était pas sur la côte, mais à la frontière entre la Biscaye et la Castille. En second lieu, on peut dire que le fuero organise les droits de l'individu. L'égalité de tous les Biscayens devant la loi est présentée par un moyen unique. Elle est préservée par un moyen unique, c'est ce qu'on appelle la noblesse universelle, la noblesse de tous les Biscayens. On est noble par la terre, non par le sang. Et tous les Biscayens sont nobles. C'est ce qu'on appelle la hidalguía universelle, la noblesse universelle. Elle traduit cette parfaite égalité juridique et civile, et elle fut reconnue officiellement par le roi de Castille à tous les Biscayens en 1394. Autre institution très intéressante, c'est sur le plan pénal, il existe l'équivalent de l'institution anglo-saxonne de l'habeas corpus, c'est-à-dire nul ne peut être arrêté sans un mandat délivré par un juge compétent. Le juge était saisi sur plainte ou dénonciation, mais il était interdit d'accuser nommément une personne. L'accusateur ne pouvait qu'indiquer le lieu, les jours et heures et les circonstances du fait avec les noms des témoins. Seul le fait était dénoncé et c'était le juge qui devait déterminer l'auteur. Toute personne suspectée devait être convoquée sous l'arbre de Guernica dans un délai d'un mois pour se justifier de l'acte qui lui était reproché. On peut remarquer que l'habeas corpus britannique date de 1679 et l'habeas corpus biscayen est antérieur de plus de deux siècles à cet habeas corpus britannique. Par ailleurs, il convient de relever aussi l'interdiction de la torture. Enfin, les biscayens ne pouvaient être arrêtés pour dettes. Leurs maisons, leurs armes, leurs chevaux ne pouvaient être saisis. La maison d'un basque était inviolable. Parmi les droits économiques, on peut citer la complète autonomie fiscale de la Biscaye. La couronne donc, de Castille ne pouvait pas lever des impôts. La liberté d'acheter, de vendre, de faire commerce. L'interdiction de tout monopole et la production de l'industrie du fer. Ou encore l'entière liberté donnée au père de famille de transmettre ses biens à n'importe lequel de ses enfants, garçon ou fille. C'était celui ou celle qui était jugé le plus ou la plus apte à gérer le patrimoine familial. Ce patrimoine familial était inaliénable et indivisible. Donc c'est ce qu'on appelle la troncalidad, qu'on peut traduire en français par la défense de la maison souche. Et pour terminer cette rapide étude du régime traditionnel de la Biscaye, je voudrais insister sur un point, c'est l'attachement très fort des Biscayens au fuero. Entre le XVIIe et le XIXe siècle, on relève une résistance farouche et constante des Biscayens face aux attaques de ceux qui, depuis Madrid, cherchaient à détruire le système foral. Et il y a eu beaucoup d'attaques de la part du pouvoir madrilène contre les fueros et qui furent repoussées par les biscayens. On appelle ces révoltes populaires des biscayens. Les motifs pouvaient être économiques, politiques ou sociaux, des machinadas, donc des révoltes populaires. Le chêne de Guernica est peut-être le symbole le plus universel des libertés et traditions basques. Les plus anciennes références à cet arbre datent du XIVe siècle. Les assemblées générales de Biscaye se réunissaient sous l'arbre de Guernica. À l'origine, il y avait un seul banc de pierre, puis sept sièges de pierre en 1565, qui disparurent en 1828, lorsqu'on commença à construire la Casa de Juntas, c'est-à-dire le siège de l'Assemblée. On sait que l'arbre est le symbole de la vie en perpétuelle évolution à travers ses feuilles qui poussent et qui meurent pour repousser au printemps suivant ou encore à travers ses fruits. Parmi les arbres, le chêne est l'arbre sacré dans de nombreuses civilisations. C'est un symbole de majesté par sa taille, synonyme de force. Jean Richelard, que beaucoup ici ont connu, qui fut professeur à l'université de Bordeaux III, président de l'Académie de langue basque jusqu'à Sendia et directeur de ce musée, Jean Richelard a fait remarquer que si en français on dit « fort comme un turc », en espagnol on dit plutôt « fuerte como un roble », « fort comme un chêne ». Un ancien chêne mourut en 1564. Cette année-là marque la date de la première plantation dont nous avons des documents. Cet arbre mourut en 1811, âgé de 247 ans. Un de ses rejetons, planté en 1742, dura 150 ans et sécha en 1892. Et c'est le tronc de ce chêne qui est conservé dans un temple, un petit temple construit en 1929. Le suivant fut planté en 1860 et ne survécut pas à la canicule de l'été 2003. Le chêne actuel fut planté en février 2005 par le lendakari de l'époque, Juan José Ibarreche. Il est à noter, ça c'est très intéressant, que l'arbre de Guernica et son symbole étaient connus des philosophes français du siècle des Lumières, en particulier des révolutionnaires de 1789. Jean-Jacques Rousseau lui adresse son salut, ainsi que le conventionnel Tallien, dans un discours de 1794. Lorsque les soldats de la Convention, sous le commandement du général Moncey, atteignirent Guernica en juin 1795, ils présentèrent les armes et saluèrent l'arbre comme le père de tous les arbres de la liberté que l'on avait planté depuis durant la Révolution française de 1789. C'est la chanson Guernica Coarbola, l'arbre de Guernica, de José María Iparraguirre, qui donna au célèbre chêne ses lettres de noblesse. José María Iparraguirre était né en 1820 dans un petit village de Guipúzcoa, Villarreal de Orechu. Il prend part à la première guerre carliste dans le camp carliste. Il est à peine âgé alors de 14 ans. Il y est blessé Et à la fin de la guerre, en 1840, il passe en France et, s'accompagnant de sa guitare, il commence à composer de nombreuses chansons. Il participe à la Révolution française de 1848, mais bientôt Napoléon III l'expulse. Il vit en Suisse, en Italie, en Allemagne et à Londres en 1851. En 1853, il est de retour dans l'État espagnol et plus précisément à Madrid. C'est là qu'il compose et qu'il va chanter pour la première fois « Guernica Coarbola », qui immédiatement va devenir une sorte de Marseillaise basque, on peut dire, et qui va s'imposer comme un véritable hymne des provinces basques. Il va chanter cette chanson pour la première fois en 1853, donc dans un café où se réunissaient des Basques à Madrid, le café San Luis, Calle de la Montera, c'est tout près de la Puerta del Sol. L'année suivante, il la chante en Pays Basque, à Urkiola, au col de, en haut du col d'Urkiola, en Biscaye, pour la fête de Saint-Antoine. Le succès de ce chant résulte, qui est immédiat, résulte du fait que, tous les fueristas, c'est-à-dire tous les habitants, tous les partisans du système politique traditionnel du Pays Basque, qu'ils soient d'origine carliste comme d'origine libérale, vont se reconnaître dans cet hymne. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous chanter le Guernica Coarbola parce qu'on bénéficie... Oui, il y a des protestations, mais bon. Non, mais on bénéficie quand même d'un anticyclone depuis quelques jours. Alors, je vais vous lire quand même le premier couplet. Guernica coarbola, dabeni katua, eskualdunen artean, guziz maitatua. Emanta zabalzazu, munduan fruitua, adorazen zaitugu, arbola chantua. L'arbre de Guernica est béni, tout à fait aimé parmi les Basques. Donnez et répandez votre fruit dans le monde. Nous vous adorons, arbre sacré. On voit en particulier avec ce vers, Emanta zabalzazu, munduan fruitua, donnez et répandez votre fruit dans le monde, que ce chant se place à l'exact opposé d'un quelconque repli, qu'on pourrait appeler ethnique ou encore identitaire. C'est l'exact opposé. L'enthousiasme pour cette chanson est énorme, impressionnant. Bientôt, Iparraguirre est considéré comme un agitateur des foules. Il est expulsé du Pays Basque en 1855. En 1858, il s'embarque ici à Bayonne avec sa fiancée, qui était originaire d'ailleurs du Pays Basque Nord, pour l'Amérique, et il va vivre en Argentine puis en Uruguay. Il est berger, mais il ne se consacre pas tellement aux moutons. Il préfère composer des chansons et les chanter. Et il est aux prises, évidemment, à d'énormes difficultés financières. L'appel du pays natal est le plus fort. Et en 1877, il abandonne sans vergogne sa femme et ses 8 enfants. Il revient en Guipuscoa. Une souscription lancée dans les milieux basques d'Argentine couvre les frais du voyage. Il va mener une vie difficile pendant 4 ans avant sa mort, seulement aidé par quelques subsides qui lui sont votés par les députations du Pays basque. Il meurt en 1881. Il est enterré dans son village natal, Villarreal de Urretxu. C'est donc au cours du XIXe siècle que Guernica s'affirme comme symbole des fueros basques. Elle le fera par la combinaison de 3 éléments, un complexe architectural, c'est la construction de l'actuelle Casa de Juntas de 1826 à 1833, les guerres carlistes, au cours desquels les prétendants carlistes au trône d'Espagne, Carlos V et Carlos VII, jurèrent de respecter les fueros, et également un hymne, donc on vient de le voir, Guernica Coarbola. Les derniers vestiges du système foral, c'est-à-dire les exemptions fiscales et l'exemption du service militaire, furent abolis à la fin de la Seconde Guerre carliste par la loi du 21 juillet 1876. Cette abolition forale, cette abolition des fueros en 1876, fut durement ressentie par de larges secteurs de la population basque. Et chaque année, à la date anniversaire du 21 juillet, bien des manifestations étaient organisées à Guernica. Ces protestations, on peut le remarquer, s'étendaient même dans la diaspora basque, puisque une société d'Argentine, la société Laurak Bat, c'est-à-dire les quatre en un, allusion à l'union des quatre provinces basques péninsulaires, bien cette association Laurak Bat de Buenos Aires, qui avait été fondée en 1877, donc l'année juste après l'abolition des fueros, bien cette société va voter chaque année, pendant un siècle, pendant 100 ans, chaque 21 juillet, une motion qui proteste contre l'abolition du système foral du Pays basque. On peut remarquer aussi que Sabino Aranagoiri, le fondateur du nationalisme basque, va s'appuyer sur ce profond sentiment de frustration qui était présent dans les provinces basques suite donc à l'abolition des fueros, et ce, dès le début de son action politique en 1893. Alors, plus près de nous, le soulèvement du général Franco contre les institutions légitimes de la Seconde République espagnole entraîna, le 18 juillet 1936, le déclenchement de la guerre civile. Deux mois et demi plus tard, le 1er octobre 1936, le Parlement espagnol accorda le statut d'autonomie aux provinces basques de Guipuscoa, Biscaye et Álava, statut d'autonomie qui avait été adopté dans ces provinces par référendum en novembre 1933 dans celle-ci. Donc il faut remarquer qu'il y a eu presque trois ans entre le vote de ce référendum, adoption de ce statut d'autonomie à une majorité écrasante. En Biscaye et en Guipuscoa, c'était près de 90%. En Álava, un petit peu moins. Et puis l'adoption, donc, il faut savoir que le statut d'autonomie n'était pas encore accordé lors du soulèvement du général Franco. Il était en discussion toujours. Et donc, c'est ce soulèvement qui va accélérer les choses et qui va faire que le 1er octobre 1936, le Parlement, donc la République espagnole, va accorder ce statut d'autonomie. Le 7 octobre 1936, José Antonio de Aguirre, député du Parti nationaliste basque, fut élu président du gouvernement provisoire du Pays basque. Le Parti nationaliste basque était un parti d'inspiration démocrate chrétienne et il n'était pas membre du Frente Popular, c'est-à-dire le Front Populaire. Mais, dès le premier jour, le Parti nationaliste basque s'était rangé du côté de la République dès le début du conflit, par un communiqué donc, du 19 juillet 1936, paru dans son quotidien Euskadi de Bilbao. L'élection d'Aguirre eut lieu le matin à Bilbao, c'est-à-dire le 7 octobre, et la cérémonie officielle d'intronisation eut lieu l'après-midi à Guernica. On peut remarquer que le front des combats était à peine à 20 km lorsque cette cérémonie d'investiture eut lieu le 7 octobre 1936 à Guernica. Alors je vais vous lire le serment que José Antonio Aguirre a juré à Guernica. On peut remarquer que donc ce serment a été donc l'auteur de ce serment est Juan Arruyaguera, l'oncle de mon épouse Isabelle, qui j'ai oublié de la remercier, donc, mais bon, il ne va pas m'en vouloir. Donc c'est son oncle qui a composé ce serment. Alors, Rangoikuaren aurean apalik, Eusko lur gainean sutunik, Asabearen gomutaz, Gernikako suaizpian, nere aginduba ondo bedetzia sindagit. Qui peut se traduire par « humble devant Dieu, debout sur la terre basque, dans le souvenir de nos aïeux, sous le chêne de Guernica, je jure de remplir fidèlement mon mandat ». Il est à noter que le gouvernement de José Antonio Aguirre comprenait un représentant de tous les partis politiques présents dans les provinces basques qui étaient opposés à la rébellion de Franco. Et on peut remarquer aussi que ce serment, il est encore, donc, c'est le dernier, c'est donc plutôt Inigo Urkullu, l'actuel Lendakari, qui l'a prononcé le 26 novembre dernier, hein, donc exactement le même serment à Guernica lorsqu'il a été investi. Donc il convient d'ajouter qu'à une époque plus récente, Guernica continue de jouer un rôle de premier plan dans l'histoire constitutionnelle basque. Après la fin du franquisme et l'avènement de la démocratie en Espagne, à partir donc des années 1975, le statut d'autonomie pour les provinces de Guipuscoa, Biscaye et Álava, adopté par référendum le 25 octobre 1979, porte le nom de statut de Guernica. Et depuis l'année 80, les présidents ou lendakari successifs du gouvernement autonome basque sont investis de leurs fonctions dans la Casa de Juntas de Guernica. Et le dernier, je viens de vous le dire, à ce jour, est le lendakari Inigo Urkullu qui a été investi le mois dernier, le 26 novembre dernier. Alors maintenant, j'en arrive au bombardement. Et lorsqu'on parle du bombardement des Guernica, on peut dire qu'il y a l'histoire du bombardement lui-même, mais aussi qu'il y a toute l'histoire, depuis 1937 jusqu'à aujourd'hui, de la polémique sur le bombardement. On peut constater que la signification qu'a prise le bombardement au fil des ans est devenue plus importante que le bombardement lui-même. Et c'est le premier paradoxe que nous rencontrons. C'est-à-dire la question, comment ça se fait que ce bombardement, qui certes a fait plusieurs centaines de victimes, mais enfin, ce n'était qu'un pâle reflet, par exemple, du bombardement de la ville allemande de Dresde par les Alliés, qui en février 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, fit 135 000 victimes. On sait malheureusement aussi ce qui se passe aujourd'hui et depuis plusieurs mois à Alep, par exemple. Eh bien, comment donc ce bombardement de Guernica a-t-il pu avoir de telles répercussions et comment a-t-il pu acquérir une telle dimension universelle? On peut remarquer aussi que moins d'un mois avant le bombardement de Guernica, il y avait eu le bombardement de Durango le 31 mars 1937. C'était le premier jour de l'offensive du général Mola, partisan de Franco, sur la Biscaye. Ce bombardement avait fait 300 morts et de nombreux blessés. Ce bombardement de Durango est loin d'avoir eu le retentissement qu'a eu le bombardement de Guernica. Et même, il y a des historiens de Durango qui s'en sont plaints jusqu'à écrire un livre et donc définir ce bombardement comme un bombardement passé sous silence. Comment donc expliquer cela? Certes, le bombardement de Durango avait été moins intense. Il n'y avait eu que 9 bombardiers italiens qui déversèrent à peine, si l'on peut dire, 12 tonnes de bombes. On peut noter aussi qu'à Durango, au contraire de Guernica, il n'y eut pas de bombes incendiaires. Mais ces détails techniques n'expliquent pas tout. Déjà, le correspondant du Times à Bilbao, en 1937, George Stier, avait noté que pour les Basques, Guernica signifiait bien plus que Durango. Il faut dire aussi que c'est dès le début de la guerre civile que les franquistes avaient bombardé la population civile, par exemple à Otxandiano, un village biscayen, Otxandio aujourd'hui, un village biscayen à la frontière de l'Álava. Et donc c'est à 4 jours à peine après le soulèvement du général Franco, le 22 juillet 1936, qu'il y eut un bombardement qui fit 60 morts. En fait, si le bombardement de Guernica a atteint la dimension universelle qui est la sienne, cela est dû, je crois, à la combinaison de plusieurs facteurs. D'abord, le fait qu'il a été considéré comme le premier bombardement aérien massif de l'histoire sur une population civile. En effet, l'emploi massif de bombes explosives et de bombes incendiaires sur une population civile supposait un pas en avant dans l'horreur. Et en 1937, on peut dire que l'opinion publique n'était pas encore blasée devant de tels spectacles dramatiques qui devinrent malheureusement monnaie courante durant la Seconde Guerre mondiale et après cette Seconde Guerre mondiale. C'est Guernica qui va inaugurer cette série tragique et interminable de massacres aériens. Ainsi, cet événement fut et demeure de nos jours le symbole de tels crimes. Ensuite, le tableau de Picasso, grâce au génie du peintre, est devenu le symbole de la brutalité et de l'horreur que provoquent toutes les guerres. Enfin, et peut-être surtout, l'incompréhensible et stupide négation du bombardement de la part des franquistes, qui soutinrent d'abord que Guernica avait été incendiée par les Basques eux-mêmes, avant d'en rejeter la responsabilité exclusive sur les nazis, a déclenché une violente polémique qui s'est prolongée jusqu'à aujourd'hui. Et cette polémique n'a cessé d'alimenter un débat passionné. L'entêtement de cette propagande franquiste a contribué sans nul doute à faire de Guernica un symbole qui aujourd'hui reste représentatif des grandes tragédies du XXe siècle. Et on peut dire que Guernica incarne une des grandes peurs du monde, l'idée d'être bombardé. C'est la version moderne du ciel qui nous tombe sur la tête. Première question. Comment et par qui Guernica fut-elle détruite? Selon tous les témoignages, Guernica, durant les années de la Seconde République espagnole, c'est-à-dire depuis 1931, et les premiers mois de la guerre, était une bourgade tout à fait paisible, accueillante et pacifique. L'ambiance y était familiale et conviviale. Certes, il y avait, grosso modo, trois blocs politiques distincts. Les nationalistes basques, majoritaires, 49% des suffrages exprimés aux élections législatives de 1936, ils contrôlaient la mairie. Ensuite, il y avait les monarchistes et carlistes, ils avaient un petit peu moins, 38,5% des suffrages à ces mêmes élections. Et enfin, le bloc du Frente Popular, c'est-à-dire socialiste et républicain, qui lui était beaucoup plus faible, 11,5% des suffrages à peine. Mais on peut dire qu'il n'y avait pas de véritable tension entre ces forces politiques. Tout le monde se connaissait et il arrivait souvent que les bandes de jeunes soient composées de personnes de différentes sensibilités politiques. Et depuis le début de la guerre civile, c'est-à-dire depuis le 18 juillet 1936 jusqu'à cette date fatidique du 26 avril 1937, Guernica n'avait jamais été attaquée. Mais depuis le premier jour de l'offensive du général Mola, donc l'offensive militaire des franquistes sur la Biscaye, le 31 mars 1937, l'avancée des franquistes n'avait pas été spectaculaire. Il leur fallait frapper un grand coup. Et ce jour-là, donc il s'agit du lundi 26 avril 1937, vers 16h20, les cloches de l'église Santa Maria se mirent à résonner. Elles annonçaient l'arrivée des premiers avions. Un bimoteur allemand Dornier 17, parti de Burgos, qui jeta une dizaine de bombes de 50 kilos. Puis trois avions italiens, Savoia, Marchetti, SM-79, parti de Soria, qui jetèrent 36 bombes de 50 kilos. Vers 17h, survint un Heinkel 111 allemand, parti de Burgos, qui jeta aussi plusieurs bombes de 50 kilos. Vers 18h, un autre Heinkel 111, escorté par cinq chasseurs italiens Fiat CR-32. Et c'est vers 18h que la phase la plus dure du bombardement commença, avec trois escadrilles de bombardiers allemands Junker 52, parti de Burgos. Au total, 19 Junkers 52 qui lancèrent 20 tonnes de bombes. Les Junkers 52 étaient énormes pour l'époque. Ils étaient appelés par les soldats basques les tranvías, c'est-à-dire les tramways. Ils avaient une envergure de 29 mètres pour une longueur de 19 mètres. Chaque bombardier transportait 1300 kg de bombes. Deux bombes de 250 kg, le reste étant constitué par des bombes de 50 kg et par des bombes incendiaires. Les bombardiers lancèrent tout d'abord des bombes explosives et ensuite des bombes incendiaires sur les immeubles qui déjà avaient été endommagés ou détruits. Les bombes incendiaires, lancées 24 à la fois, pesaient à peine 1 kg et se présentaient sous la forme de tubes d'environ 30 cm. À l'intérieur, il y avait une poudre argentée qui se répandait par 6 ouvertures situées à la base du tube. Ces bombes incendiaires produisaient des températures de 2000 à 3000 degrés. Le correspondant du Times à Bilbao, George Stier, put écrire « Ainsi, quand les maisons s'effondrèrent sur leurs habitants, il plut du ciel, du feu, en conserve pour les embraser. » Pour ajouter à l'horreur, une dizaine d'avions de chasse, beaucoup plus légers, ils avaient à peine un poids vide d'une tonne et demie contre 6 tonnes au Heinkel 111 et Junker 52. Ces avions de chasse mitraillèrent la population en volant à basse altitude. Il s'agissait de Messerschmitt 109B et Heinkel 51 allemand et de Fiat CR 32 italien. Ils vont mitrailler la population qui s'enfuit en ville, terrorisée, mais aussi dans les champs alentours, jusqu'à 4 km autour de Guernica, ce qui relève davantage du sadisme que de la recherche d'objectifs militaires. Au total, on peut dire qu'environ une soixantaine d'avions participèrent au bombardement et entre 31 et 41 tonnes de bombes furent déversées cet après-midi-là sur Guernica. À 19h40, c'est la fin du bombardement et le spectacle était dantesque. Guernica était dévastée et les carcasses des maisons étaient en flammes. 85% des maisons de Guernica étaient détruites. Seule la ville haute, là où se trouvait la Casa de Juntas et le chêne de Guernica, ainsi que quelques demeures de franquistes notoires, avaient été épargnées. Partout, dans les rues détruites, mêlées au corps des humains, calcinés, beaucoup d'animaux morts aussi. Ce fut la nuit qui avait chassé les avions et mis fin au bombardement. Guernica brûlait, on voyait l'incendie jusqu'à 20 km et le vent était favorable à la propagation des flammes, portant celles-ci d'une maison à l'autre. La vieille ville, où le bois était l'élément dominant des constructions, disparut pratiquement. Les pompiers de Bilbao n'arrivèrent qu'entre 9h30 et 10h30 du soir. L'incendie ne fut totalement maîtrisé que le lendemain vers midi et grâce à la pluie du matin. La population de Guernica, ce 26 avril d'une part, et le nombre des victimes d'autre part, ont fait l'objet de polémiques. Les franquistes vont essayer de minimiser la population de Guernica ce jour-là avant de exposés au bombardement avant d'essayer de minimiser le nombre des victimes. On peut raisonnablement estimer que la population de Guernica était ce jour-là d'au moins 10 000 personnes. Il faut en effet ajouter au chiffre de 6 000 personnes qui était celui de la population de Guernica à l'époque, de nombreux civils réfugiés, civils et militaires, et il y avait des soldats au repos. Il y avait 3 bataillons qui, ce jour-là, étaient au repos à Guernica. Donc environ 10 000 personnes, ce jour-là, à Guernica. C'était de plus, vous le savez aussi, jour de marché, ce lundi, et foire au bétail, et il y avait à Guernica beaucoup de paysans des villages avoisinants. Quant au nombre de victimes, on ne connaîtra sans doute jamais le nombre exact des morts. En effet, moins de 72 heures après le bombardement, le jeudi 29 avril, vers 12h30, les troupes franquistes et italiennes entrèrent dans Guernica. Et donc, le gouvernement autonome basque perdit de ce fait tout contrôle sur le recensement des morts et les vainqueurs de la guerre civile, les franquistes, ne vont jamais réaliser d'enquête sérieuse sur le nombre des victimes et ils ne permirent pas non plus les investigations des étrangers. Les chiffres donnés par le gouvernement basque furent de 1654 morts et de 889 blessés. Les chiffres donnés par les franquistes varièrent entre moins d'une douzaine, parfois, on peut le lire ça, et 200. Alors il est difficile de donner un chiffre, même approximatif, mais sans doute plusieurs centaines de personnes périrent-elles ce jour-là ou des suites du bombardement. Par contre, ce que l'on peut affirmer avec certitude, c'est qu'il s'agit d'une opération conçue, préparée et exécutée à partir et sur les ordres de l'Espagne franquiste. En effet, il est impensable que la Légion Condor, qui avait 6000 hommes, c'était le nom de toutes les forces allemandes qui avaient été nazies, qui avaient été envoyées en Espagne pour soutenir les franquistes, il est impensable que cette Légion Condor ait pu mener une action de ce type de sa propre initiative. La responsabilité du bombardement doit donc être partagée entre les généraux Franco et Mola, d'une part, et les Allemands von Richthofen, chef d'état-major de la Légion Condor, et Sperl, le commandant en chef. En plus, il faut savoir que la Légion Condor, qui disposait d'une centaine d'avions en Espagne, avait un statut spécial, à savoir qu'elle était aux ordres directs de Franco. Si la responsabilité est conjointe entre Franco et la Légion Condor, en dernier ressort, la responsabilité ultime et morale du bombardement incombe bien à Franco. Il faut savoir qu'une note de l'Espagne franquiste du 6 janvier 1937 disposait que sans ordre express, eh bien, on ne pouvait bombarder aucune ville. Deuxième question, pourquoi ? Pourquoi Guernica fut-elle détruite ? Il faut insister sur le fait que Guernica, qui était située à 20 km du front, ne constituait en aucun cas un objectif militaire. Ce n'était qu'un modeste nœud de communication qui ne disposait que d'une seule mitrailleuse antiaérienne. D'ailleurs, on peut remarquer que les seuls objectifs que l'on pourrait qualifier de militaires, c'est-à-dire il y avait un pont qu'on appelait pont de Rentería et deux fabriques d'armes légères, Unceta y Compañía et Talleres de Guernica, ne furent pas détruites par le bombardement. En outre, pourquoi aurait-on employé des bombes explosives de 250 kg et des bombes incendiaires pour détruire un pont ? Le chef d'état-major, le lieutenant-colonel von Richthofen, parla de succès technique complet. Et cette expression serait difficile à comprendre si le principal objectif de l'attaque avait été le bombardement d'un pont, puisque celui-ci, justement, ne fut pas détruit. Ce qui faisait problème pour les franquistes, c'était la résistance acharnée des Basques malgré leur faiblesse aérienne. On aura une idée de cette faiblesse en prenant connaissance du télégramme du président Aguirre au gouvernement républicain espagnol qui était installé à Valence. Le président Aguirre n'a cessé de réclamer au gouvernement républicain des avions qui n'arriveront jamais, Et le président Aguirre écrit: nous n'avons qu'un seul avion de chasse, un seul avion, qui ne peut sortir, car ce serait le livrer à l'ennemi. Cependant, du 31 mars, début de l'offensive rebelle franquiste en Biscaye, au 26 avril 1937, malgré des intenses raids aériens et des assauts terrestres massifs, eh bien, les forces du général Mola n'avaient avancé que de 16 km. Il leur fallait coûte que coûte, pour les franquistes, il fallait coûte que coûte pour les franquistes briser cette résistance basque. Et les franquistes craignaient de ne pouvoir conquérir Bilbao, c'était leur objectif, comme les carlistes, il faut le noter, les carlistes au 19e siècle n'avaient pu le faire par deux fois, n'avaient pas pu, lors des guerres carlistes, n'avaient pas pu entrer dans Guernica. La détermination n'avait pas pu rentrer à Bilbao. La détermination de Mola pour conquérir la Biscaye était entière. On peut en juger par la déclaration qu'il a publiée par le Daily Herald le 29 avril. On peut remarquer qu'il s'agit de la dernière déclaration publique de Mola avant sa mort, puisqu'il va périr dans un accident d'avion le 3 juin 1937. Voilà ce que déclare Mola. Nous raserons la Biscaye et son emplacement nu et désolé enlèvera à l'Angleterre l'envie de soutenir contre nous les bolcheviks basques. Il faut détruire la capitale d'un peuple perverti qui osent s'opposer à la cause irrésistible de l'idée nationale. Donc, je crois que la finalité la plus importante pour les franquistes, c'est d'atteindre le moral des Basques, en élevant progressivement le niveau de violence. Ce qu'ils recherchent, c'est l'effet d'incendie, de destruction et surtout de démoralisation de la population. Seulement ainsi, on peut expliquer le mélange des bombes explosives et des bombes incendiaires et également le mitraillage de la population. De plus, en détruisant Guernica, les franquistes détruisaient bien plus qu'une petite ville basque. Ils s'attaquaient à la ville symbole des libertés et des traditions basques. Ils s'attaquaient, même s'il ne fut pas touché, aux chaînes de Guernica et à ce que représentait, on l'a vu, pour les Basques, la chanson « Guernica Corbola », devenue un véritable hymne. Ils s'attaquaient aussi, surtout, à la ville où fut constitué le 7 octobre 1936 le premier gouvernement basque de l'histoire, présidé par José Antonio Aguirre. En s'attaquant à Guernica, les franquistes cherchaient à humilier l'histoire basque. Ils prétendaient faire plier la fierté et l'aspiration à la liberté du peuple basque.
Guernica, quand l'histoire devient symbole, vous venez de suivre la première partie de la conférence de Jean-Claude Laronde, historien et président du Musée basque de l'histoire de Bayonne, conférence enregistrée le 14 décembre 2016 au Musée basque de Bayonne. La semaine prochaine, même lieu, même jour, même heure, vous pourrez suivre la seconde partie de la conférence de Jean-Claude Laronde consacrée aux répercussions du bombardement de la ville de Guernica.